Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain. Deuxième cassette, deuxième face, page 48. Le pasteur énonça le texte de son sermon et en entreprit d'une voix monotone un commentaire si filandreux que bien des assistants commencèrent à dodeliner de la tête. Et cependant, il s'agissait du feu éternel auquel les élus devaient échapper en si petit nombre que ce n'était guère la peine de les sauver. On compta le nombre de pages lues par le pasteur. Une fois l'office religieux fini, il savait toujours combien il y avait eu de pages. Mais c'est là tout ce qu'il avait retenu du sermon. Le pasteur fit un émouvant tableau du rassemblement de toutes les nations du monde, à l'occasion duquel on verrait un lion et un agneau conduits ensemble par un tout petit enfant. Mais pour notre gamin, la morale de l'histoire resta lettre morte. Il ne pensa qu'au rôle glorieux du personnage principal devant les nations assemblées et se dit qu'il voudrait bien être cet enfant, à condition toutefois que le lion fût apprivoisé. Le commentaire sombra à nouveau dans la monotonie et la pensée de Tom se reporta sur un trésor qu'il avait en sa possession. Il le sortit de sa poche. C'était un énorme cancrelat aux mandibules formidables, un cafard à pince, comme il disait. Il le tenait emprisonné dans une boîte à amorce. La première chose que fit l'insecte fut de lui pincer le doigt. La réaction de Tom fut de lui donner une chiquenaude. Le cancrelat, projeté en l'air, atterrit sur le dos et Tom suça son doigt meurtri. Incapable de se redresser, le cancrelat se débattait. Tom le regardait et mourait d'envie d'aller le ramasser, mais il était trop loin. D'autres personnes que le sermon n'intéressait pas consacrèrent leur attention à ce spectacle. Soudain, survint un caniche errant en quête d'aventure. Il paraissait mélancolique. La température clémente et le calme de l'été l'incitaient à la paresse. Là de la captivité, il cherchait autre chose. Apercevant le cancrelat, il remua la queue, examina la proie convoitée, en fit le tour, la renifla prudemment à distance, continua à tourner autour, puis s'enhardissant, la renifla de plus près, avança la lèvre et exécuta une attaque hardie, la manquant de peu. Recommença une fois, puis une autre, se piqua au jeu, se coucha sur le ventre avec le cafard entre les pattes et continua ses expériences. Puis soudain, il parut se désintéresser de la question, rapprocha la tête du sol, et quand elle fut à la portée du cafard, celui-ci le pinça au menton. Le chien aboya « Wouf, wouf !» et d'un coup de tête envoya promener le cafard qui, une fois de plus, tomba sur le dos. Les spectateurs les plus rapprochés firent entendre des rires étouffés. Des dames se cachèrent le visage derrière leur éventail et des messieurs derrière leur mouchoir. Tom exultait. Le chien avait l'air tout penaud et peut-être s'en rendait-il compte, car animé d'un désir de revanche, il rejoignit le cafard avec toutes les précautions d'une stratégie circonspecte, tournant autour, bondissant vers lui de temps à autre, avançant une patte prudente, découvrant ses dents, secouant la tête et faisant claquer ses oreilles. Puis, une fois encore, il abandonna la partie, s'occupa d'une mouche, qui ne suffit pas à l'intéresser. Le museau à ras de terre, il poursuivit une fourmi qu'il abandonna bientôt, bâilla, soupira, si bien qu'il oublia tout à fait le cafard et finit par s'asseoir dessus. Un cri de douleur troubla la cérémonie. Aou, 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 aou. Le chien se précipita vers l'autel en hurlant, parcourut l'église dans sa largeur, redescendit par une nef latérale. Plus il allait, plus il s'affolait, si bien que l'on eût dit une sorte de comète laineuse parcourant son orbite à une vitesse inaccoutumée. La malheureuse bête finit par sauter sur les genoux de son maître, qui s'en débarrassa en la jetant par la fenêtre. Bientôt, les hurlements cessèrent de se faire entendre. Tous les fidèles étaient cramoisis. À force de rire contenu, si bien que le malheureux pasteur avait dû interrompre son sermon. Il le reprit en l'abrégeant, mais dut renoncer à tout espoir de monopoliser l'attention de son auditoire. Ses déclarations les plus graves étaient accueillies par les rires étouffés des assistants, qui se cachaient derrière les bancs comme si le malheureux pasteur avait raconté des histoires du plus haut comique. Quand l'épreuve fut terminée et que la bénédiction fut donnée, ce fut un soulagement pour tous. Retournant chez sa tante, Somm Sawyer était d'excellente humeur, se disant qu'après tout, un office religieux célébré dans ces conditions n'était pas ennuyeux du tout. Il y avait toutefois une ombre au tableau. Il voulait bien que le chien joue avec son cafard, mais qu'il l'emporte, alors ça n'était pas de jeu. Chapitre 6. Tom fait la connaissance de Becky. Le lundi matin, à son réveil, Tom se trouva très mal en point. Il en était d'ailleurs ainsi chaque lundi, puisque chaque lundi était le premier jour d'une semaine de travail à l'école. Tom en arrivait presque à souhaiter qu'il n'y ait pas eu de dimanche, tellement l'interruption du travail lui en rendait la reprise plus pénible. Dans son lit, il réfléchissait. Pourquoi ne dirait-il pas qu'il était malade? Ainsi, il pourrait rester à la maison. Il y avait là une idée à creuser. Tom examina la situation. Au fond, il n'avait rien du tout. En cherchant bien, il avait tout de même un peu mal au ventre. Ça pouvait passer pour des symptômes de colique. Il fonda tous ses espoirs là-dessus. Mais la douleur diminua, puis disparut. Il fallait trouver autre chose. Il découvrit qu'une de ses dents branlait, une dent de devant, à la mâchoire supérieure. Bonne affaire. Il allait commencer par gémir pour créer un climat favorable. Mais il se rendait compte que si c'était là tout ce qu'il avait à dire, sa tante lui arracherait la dent et que cela lui ferait mal. Mettons donc momentanément la dent en réserve, se dit-il, et cherchons autre chose. Oui, mais quoi ? Tout à coup, il se rappela avoir entendu un docteur parler d'un certain bobo qui immobilisait un malade pour 15 jours ou 3 semaines et risquait de lui coûter la perte d'un doigt de pied. Tom sortit aussitôt un pied de dessous ses couvertures et examina son orteil malade. Mais quels étaient les symptômes du mal et de quoi fallait-il se plaindre ? Il ne le savait pas très bien. Enfin, cela valait la peine d'essayer. Il se mit donc à pousser des gémissements étudiés. Mais Sid dormait comme on dort à cet âge. Tom gémit plus fort et réussit presque à se convaincre lui-même qu'il avait réellement mal aux pieds.
Aïe, ouïe.
Sid ne réagissait toujours pas. Tom commençait à être fatigué de la peine qu'il se donnait. Il fit une pause, puis recommença une série de gémissements qui certainement étaient des chefs-d'œuvre du genre.
Aïe, ouïe, aïe, ouïe, 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 aïe, aïe, ouïe, ouïe, aïe.
Sid continuait à ronfler. Tom s'énerva. Il appela « Sid ! Sid !» et secoua son frère. Le résultat couronna ses efforts. Tom reprit son rôle de malade et se remit à gémir.
« Aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Ouh là là ! Ouh ! Aïe !»
Sid bâilla, s'étira, grogna.
prit un point d'appui sur son coude et commença à regarder Tom. Tom gémissait toujours.
Aïe! Aïe! Aïe!
Tom, dit Sid. Dis donc, Tom.
Pas de réponse.
Hé là, Tom, Tom, qu'est-ce qu'il y a, mon vieux?
Sid le secoua et l'examina anxieusement.
Tom gémit. Oh, Sid, surtout ne me chahute pas, je t'en prie.
Mais qu'est-ce qu'il y a, Tom? Je vais appeler Tom Polly.
Non, attends. Ça va peut-être se passer. Ne dérange personne.
Mais il faut. Tu ne peux pas continuer à gémir comme ça. Y a-t-il longtemps que tu as mal?
Oh, depuis des heures. Aïe! Oh là là! Ouh! Ne frétille pas comme ça, tu m'énerves.
Mais Tom, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé plus tôt?
Ça me fend le cœur de t'entendre crier.
Mais qu'est-ce qu'il y a, Tom?
Je te pardonne tout, Sid, dit Tom. Tout ce que tu m'as fait, quand je serai mort.
Mais tu ne vas pas mourir, Tom. Peut-être que c'est...
Je pardonne à tout le monde.
Oh là là, aïe! Oh!
Dis-le bien. À tous, Sid. Tu iras trouver cette jeune fille, tu sais, qui vient d'arriver en ville. Tu lui donneras... mon châssis de fenêtre et mon chat borgne, et tu lui diras...
Mais Sid s'était habillé en vitesse et était sorti. Tom avait une telle imagination et jouait si bien son rôle qu'il finissait par souffrir réellement. Et ses gémissements étaient devenus tout à fait naturels.
Aïe, aïe, aïe!
Sid descendit l'escalier 4 à 4 et s'écria...
Tante Polly, venez vite! Tom se meurt!
Il se meurt?
Oui, n'attendez pas, il serait trop tard.
Oh, un autre, ça m'étonnerait bien,
s'écria Tante Polly. Ce qui n'empêcha pas la brave femme de monter aussi vite que le lui permettaient ses vieilles jambes avec Sid et Marie sur ses talons. Elle était toute pâle et ses lèvres tremblaient. Arrivée au chevet du malade, elle bégaya.
Mais Tom, mon petit Tom, qu'est-ce qu'il y a?
Oh, ma tante, je...
Enfin, quoi?
Tom... Mon doigt de pied s'est envenimé.
Rassurée, la vieille dame se laissa tomber dans un fauteuil en riant nerveusement, puis se mit à pleurer et enfin pleura et rit tout à la fois. Lorsqu'elle fut remise de son émotion, elle dit
« Oh, Tom, tu m'as fait une peur. Maintenant, voilà assez. Il faut te lever. »
Les gémissements cessèrent et du coup, Tom n'eut plus mal aux pieds. Tout penaud, il dit
« Tante Polly, mon doigt paraissait envenimé et j'avais tellement mal que j'en ai oublié ma dent. »«
Ta dent? Qu'est-ce qu'elle a, ta dent?
Elle va tomber et ça me fait mal. »«
Allons, allons, assez de gémissements comme ça. Ouvre la bouche. Bah, »« Évidemment, tu as une dent qui branle, mais c'est pas ça qui te fera mourir. »« Marie, va me chercher un fil de soie et rapporte un tison enflammé de la cuisine. »«
Oh, ma tante, petit Paul, » dit Tom. N'arrachez pas ma dent, elle me fait plus mal. Ne l'arrachez pas, elle ne m'empêchera pas d'aller en classe.
Ah bon? Alors tout ça, c'était pour ne pas aller à l'école, pour aller à la pêche pendant ce temps-là. Tom, je t'aime bien, mais vraiment, quelquefois, tu exagères.
Pendant ce temps, Marie était revenue avec les accessoires demandés. La vieille dame attachait une extrémité du fil de soie par un nœud coulant à la dent de Tom et fixa l'autre extrémité au pied du lit. Puis elle prit le tison incandescent et l'approcha brusquement de la figure de Tom. Le gamin eut un mouvement de recul et la dent fut arrachée. À quelque chose, malheur est bon. Tom, se rendant à l'école après son petit déjeuner, excita la jalousie de ses camarades à cause du trou qu'il avait dans la mâchoire, parce que grâce à ce trou, il avait trouvé une nouvelle façon de cracher. Du coup, il rassembla immédiatement tous les gamins autour de lui, alors qu'un de ses condisciples, qui jusque-là avait été l'objet de l'attention générale parce qu'il s'était coupé le doigt, perdait à la fois son prestige et sa clientèle. De dépit, il crut devoir dire que ce n'était pas bien difficile de cracher comme Tom. Mais un autre gamin lui répondit « Ah, les raisins sont trop verts, essaye donc !» et descendu de son piédestal, le héros désabusé dut continuer son chemin tout seul. Peu après, Tom rencontra l'enfant terrible du village, Huckleberry Finn, H-U-C-K-L-E-B-E-2-R-Y, plus loin F-I-2-N, dont le père était un ivrogne fieffé. Toutes les mères le détestaient et le redoutaient parce qu'il avait la réputation d'être paresseux, mal élevé et méchant, et qu'il donnait à leur fils le plus mauvais exemple. Il va sans dire qu'il était l'objet de l'admiration des enfants qui se délectaient dans sa société et ne souhaitaient rien tant que de lui ressembler. Comme les autres, Tom, à qui sa tante défendait formellement de fréquenter Huckleberry, lui enviait sa condition de hors-la-loi notoire et ne manquait jamais une occasion de jouer avec lui. Toujours en haillons, Huckleberry s'habillait avec la défroque des grandes personnes. Il portait un énorme chapeau auquel il manquait la moitié du bord, une veste qui lui tombait sur les talons, un pantalon dont le fond lui arrivait aux genoux et dont les jambes traînaient dans la poussière. Il allait et venait entièrement à sa guise. L'été, il dormait à la belle étoile, et l'hiver, il passait ses nuits dans un tonneau. Point n'était pour lui question d'école ni d'église, de maître ni de professeur. Il allait à la pêche quand il voulait, prenait un bain dans la rivière quand cela lui chantait, se couchait à l'heure qui lui plaisait, était toujours le premier à marcher pieds nus au printemps et le dernier à mettre des chaussures à l'approche de la saison froide, ne se lavait jamais, ne changeait jamais de linge et jurait comme un templier. En un mot, il jouissait de tout ce qui rend la vie digne d'être vécue. Tel était dans Saint-Pétersbourg l'opinion de tout enfant surveillé et tenu en laisse par ses parents. Tom appela le proscrit.
« Hello, Huckleberry !»«
Hello, qu'est-ce que tu dis de ça ?»«
Qu'est-ce que c'est ?» demanda Tom.
« Un chat crevé !»«
Oh, fais voir ! Oh, et pas tant ! Où tu l'as eu ?»«
Par un échange !»«
Contre quoi ?»«
Un bon point bleu et une vessie de porc que j'ai eue à l'abattoir !»«
Mais où as-tu eu le bon point bleu ?»«
Je l'ai échangé avec Ben Rogers contre une canne il y a 15 jours !»«
Bah dis donc, à quoi est-ce que ça sert les chats crevés ?»
À quoi ça sert ? Ben à guérir les verrues, bien sûr.
Penses-tu ? Je connais mieux que ça.
Je parie que non. Qu'est-ce que c'est ?
De l'eau de pluie.
De l'eau de pluie. Pouf, ça doit pas valoir grand-chose.
Tu as essayé ?
Non, mais Bob Tanner a essayé.
Et qui te l'a dit ?
Eh ben, il l'a dit à Jeff Thatcher. Jeff l'a dit à Johnny Baker. Johnny l'a dit à Jim Hollis. Jim l'a dit à Ben Rogers. Ben l'a dit à un noir. Et le noir me l'a dit. Alors ?
Qu'est-ce que ça prouve, dit Tom ? C'est tous des menteurs.
En tout cas, tous, sauf peut-être le noir que je ne connais pas. Mais j'ai jamais vu un noir qui ne mente pas. Mon œil.
Maintenant, dis-moi, comment il a fait, Bob Tanner ?
Eh ben, il a trempé la main dans le creux d'un vieux tronc pourri où il y avait de l'eau de pluie.
En plein jour ?
Eh ben, naturellement.
En faisant face au tronc ?
Bah oui, du moins, je le crois.
Et les paroles ? Est-ce qu'il disait quelque chose ?
Peut-être, là je sais pas.
Ah, comment peut-on s'imaginer guérir des verrues avec de l'eau de pluie en s'y prenant aussi bêtement ? S'écria Tom. Mais ça peut pas réussir. Il faut aller tout seul, en pleine forêt, là où on a repéré un tronc où il y a de l'eau de pluie, et à minuit tapant, on tourne le dos au tronc, on met la main dans l'eau de pluie et on dit « eau de pluie, avale mes verrues ». Après, on fait 11 pas les yeux fermés, on tourne 3 fois sur soi-même et on revient chez soi sans adresser la parole à personne parce que si on parle, c'est loupé.
Ah, peut-être ben, ta recette paraît bonne, mais c'est pas comme ça que Bob Tanner a fait.
Ben évidemment qu'il l'a pas fait, s'écria Tom. Il n'y a personne en ville qui soit plus couvert de verrues que lui. S'il avait su comment s'y prendre, il n'en aurait plus. Moi, c'est comme ça que je me suis débarrassé de milliers de verrues sur mes mains. Je joue tout le temps avec des grenouilles. Ah, alors pour les verrues, tu parles ? Quelquefois, je me sers d'une fève, c'est un gros haricot, pour les faire partir.
Ouais, la fève, ça fait de l'effet. Moi aussi, je m'en suis servi.
Ah,
Tu as essayé? Comment as-tu fait?
Eh bien, tu sais, par la fève en deux, tu t'arranges pour faire saigner ta verrue, tu mets un peu de sang sur une moitié de la fève, que tu enterres à un carrefour à minuit. Faut pas qu'il y ait de lune. Tu prends l'autre moitié de la fève et tu la brûles. La moitié de la fève sur laquelle il y a du sang se met à tirer et à appeler l'autre morceau. Alors le sang tire la verrue et peu après elle s'en va.
C'est ça, Huc, c'est bien ça. Seulement, quand tu enterres la fève, il faut dire « Fève dedans, verrue dehors, tu ne m'embêteras jamais plus. » Ça fait encore plus d'effet. C'est comme ça que fait Joe Harper. Et il a été à Coonville et partout. Mais dis un peu, avec les chats crevés, comment est-ce qu'on fait?
Eh bien, tu prends ton chat et tu vas dans le cimetière à minuit. Il faut que dans la journée, quelqu'un de méchant ait été enterré. À minuit, un diable vient, peut-être deux ou trois. Tu les vois pas. Mais quand ils se déplacent, c'est comme si on entendait souffler le vent. Ou quelquefois, tu les entends parler. Quand ils emportent le mort, tu lances le chat après eux et tu dis « Corps suis diable, chat suis corps, verrue suis chat, je n'en ai plus. » Il n'y a pas de verrue qui résiste à ça.
Ça a l'air d'être un bon truc, dit Tom. T'as essayé?
Non, mais la mère Hopkins me l'a assuré.
Alors ça doit être vrai, dit Tom, parce qu'on dit qu'elle est un peu sorcière.
Oh, il n'y a pas d'on dit, c'en est une, je le sais, s'écria Huc. Même qu'elle a jeté un sort à papa, c'est papa qui me l'a dit. Un jour qu'il passait auprès d'elle, il a senti qu'elle lui jetait le sort. Alors il a ramassé un caillou, et si elle n'avait pas changé de direction, paf, il l'aurait eu. Eh bien, le soir même, en se couchant, il est tombé, vu qu'il était saoul, et il s'est cassé un bras.
Ça alors, ça m'en bouche un coin, s'écria Tom. Et comment s'est-il aperçu qu'elle lui jetait un sort?
Pareil que c'est facile à voir. Papa, il dit que quand une sorcière vous regarde fixement, c'est qu'elle vous jette un sort. Surtout si elle marmonne quelque chose en même temps. Parce que quand elle marmonne, c'est qu'elle récite le Notre Père à l'envers.
Dis donc, Huc, quand est-ce que tu vas essayer ton chat?
Ce soir. Sûr qu'ils viendront chercher le vieux Williams.
Mais c'est samedi soir qu'on l'a enterré. Ils sont pas venus le chercher samedi soir.
Dis pas de bêtises. Tu sais bien que les charmes n'opèrent pas avant minuit. Minuit, samedi soir, c'était dimanche. Est-ce que tu te figures que les diables travaillent le dimanche par hasard?
Ah, c'est vrai, dit Tom. J'avais pas pensé à ça. Dis donc, est-ce que je pourrais aller avec toi?
Je veux bien, si t'as pas peur.
Peur, moi? Non, mais sans blague.
Tu miauleras en passant devant la maison.
Entendu, mais réponds-moi autant que possible. L'autre soir, tu m'as laissé miauler tellement longtemps que le père Hayes a fini par me jeter des pierres en me traitant de saleté de chat. Alors moi, je vais flanquer une brique dans les carreaux.
Mais tu vas pas raconter ça, au moins, hein?
Pas de danger, dit Tom. Cette nuit-là, je n'ai pas pu te répondre, parce que tante Polly n'était pas encore couchée.
Mais ce soir, je te répondrai. Dis donc, qu'est-ce que c'est?
Un scarabée.
Et où tu l'as trouvé?
Dans les bois.
Vends-le-moi, combien?
Je sais pas, et puis... Je le vends pas, je le garde.
Oh, si tu veux, dit Tom. D'ailleurs, il est moche.
Facile à dire que quelque chose est moche quand ça vous appartient pas. Moi, il me va, ça me suffit.
Oh, les scarabées, dit Tom, c'est pas ça qui manque. Je pourrais en avoir 1000 si je voulais.
Alors pourquoi que tu les as pas? Parce que tu sais très bien que tu peux pas. Celui-là, c'est un jeune, il me semble. C'est le premier que je vois de cette année.
Et si je te l'échangeais contre ma dent? « Fais voir, dit Huc. » Tom sortit de sa poche un morceau de papier qu'il déplia soigneusement. Huckleberry le suivit des yeux avec attention. La tentation était forte. À la fin, il demanda. « C'est une vraie ?» Tom souleva sa lèvre et montra le trou.
« Alors, affaire conclue, dit Huc. »
Tom mit l'insecte dans la boîte à amorce qui avait auparavant servi de prison au Cancrelat, et les deux gamins se séparèrent, chacun avec le sentiment qu'il venait de faire une bonne affaire. Fin de la deuxième face
de la deuxième cassette, Les aventures de Tom Sawyer, par Mark Twain, page 58.